Mettre des mots sur les tendances, la mode ou encore la pop culture, capter le moment, donner le rythme et susciter l'intérêt. C'est un exercice de style auquel s'attelle chaque jour mon invité. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Charlotte Moreau, journaliste, ancienne blogueuse, rédactrice de la newsletter Faire Style, autrice de livres, prof d'écriture. J'aime dire que Charlotte est en quelque sorte une slasheuse des mots. Je l'ai rencontrée il y a un peu plus de 2 ans grâce à mon amie Adeline. Je m'étais inscrite à son atelier d'écriture et j'avais été séduite par sa capacité à nous faire passer d'une technique à l'autre. Charlotte débute sa carrière au Parisien, où elle couvre des sujets sportifs et de pop culture. Puis, par concours de circonstances, rejoint le magazine Elle pour parler mode. Changement d'univers, de sujet, et c'est précisément ce qu'elle aime. Charlotte fait partie de celles qui ont transformé la manière dont on parle de style aujourd'hui, de ce que nos vêtements racontent de nous et de notre époque. Avec elle, la mode devient un terrain d'observation, du rapport au corps aux injonctions sociales, en passant par la pop culture et nos habitudes. Son ton, à la fois drôle, lucide et souvent très personnel. Comment parler de vêtements sans parler de vêtements? Elle nous parle à toutes et à tous avec des mots simples et justes. Dans cet épisode, on va revenir sur son parcours, ses premières envies d'écrire, grâce notamment au magazine Première, où plus jeune, elle rêvait elle aussi de noter les films pour y mettre des étoiles. Puis de ses débuts dans un quotidien au rythme intense, elle nous parle de ses premiers papiers sportifs et musicaux, loin de la mode. Elle nous raconte également comment elle a rejoint l'aventure Elle. Et elle revient sur la création de son blog, puis de sa newsletter, sur la manière dont elle a su fidéliser ses lectrices et partage ses techniques d'écriture, ses rythmes, son rythme et ce qui l'anime chaque jour pour continuer à écrire. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 26. Bonjour Charlotte, ça va ?
Ben ça va super.
Avec ce beau temps, on est sur, on est à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Il fait super beau, ça fait du bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview.
Avec plaisir.
Alors Charlotte, tu es journaliste, tu es une ancienne blogueuse, tu es autrice, tu fais aussi des masterclass et des ateliers d'écriture. Et tu es en quelque sorte une slasheuse des mots. Si tu me permets.
J'adore.
Et qui de mieux que toi pour te présenter ? Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, j'ai une formation de journaliste. J'ai fait des études de journalisme. Et donc, je suis journaliste depuis un peu plus de 20 ans et auteur depuis un peu plus de 10 ans. J'écris actuellement sur les vêtements et la pop culture pour le magazine Elle. Et en fait, dans mon parcours, j'ai commencé vraiment par la pop culture parce que j'étais reporter en poste dans une grande rédaction, celle du Parisien. Et puis, à partir de 38 ans et mon deuxième bébé, j'ai rejoint la grande famille des freelances. ce qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de travailler parce que freelance, ça veut dire plusieurs employeurs, plusieurs projets soit simultanés, soit alternés, plusieurs statuts et du coup, une manière de travailler, de t'organiser aussi, de te vendre, mm-hmm. entre guillemets, qui est totalement différente. Donc, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc ça fait... Enfin, pas aujourd'hui même, mais actuellement.
Mon anniversaire.
Donc, ça fait, oui, à partir du moment où tu as deux enfants, enfin, il y a beaucoup de journalistes qui bossent en presse quotidienne, enfin, qui sont vraiment sur des rythmes quotidiens très intenses, qui divorcent. Donc, je ne voulais pas que ce soit le cas. Je voulais avoir du temps pour mes enfants et puis du temps pour écrire aussi différemment en tant qu'auteur. Et c'est ce qui fait que j'ai changé de statut. Et en changeant de statut, j'ai aussi un petit peu changé de thématique puisque les vêtements, c'était d'abord pas là-dessus que j'écrivais professionnellement. C'est venu avec le temps, dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, c'est l'essentiel de ce que j'écris à la fois en tant que journaliste ou via J'ai une newsletter aussi. Je fais de la création de contenu sur Instagram autour du coaching vestimentaire aussi. Ça aussi, c'est des formats que j'écris du coup. Donc voilà, les vêtements sont venus au fil du temps, alors que la base pour moi, c'est la pop culture au sens large. Au Parisien, j'étais aux pages médias et culture. Donc ça va de la musique au cinéma, au sport aussi, puisque le sport est pour moi de la pop culture. Donc voilà, terrain très très vaste. Et puis les vêtements par goût personnel au fil du temps. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui.
Et c'est quelque chose qui t'a toujours attiré d'écrire, enfin tu écris, petite tu écrivais déjà ou...
Alors ça a été assez tardif. Par rapport à l'image qu'on peut se faire des gens qui vivent de leurs plumes, qu'on imagine dévorer des livres enfants. Moi, je lisais modérément, ce qui me valait pas mal de moqueries de la part de mes deux sœurs aînées qui trouvaient que c'était pas digne de la quantité de lecture qu'on engrangeait en famille. Moi, c'est vraiment arrivé par... Je m'en souviens assez nettement au début du lycée d'être abonnée au magazine Première et Studio et de me dire c'est ça que je veux faire. Je veux mettre des étoiles à des films, je veux donner mon avis, je veux, tu vois, et je vais être payée pour donner des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et le cinéma, j'ai toujours aimé les blockbusters, j'ai jamais fantasmé des cahiers du cinéma ou de Libé. Donc pour moi, c'était vraiment... Ça a été la première étincelle de se dire professionnellement, ça me plairait. J'ai découvert le moment venu, qu'en fait, quand tu débutes, on te demande pas du... Enfin, ton avis n'est pas du tout légitime et tu ne vas pas du tout pouvoir être critique ni écrire des critiques tout de suite. Donc, il faut en passer par des chemins détournés pour arriver là. Et la petite chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai commencé à enchaîner les stages, les piges avant mon poste au Parisien, à l'époque où la télé-réalité démarrait en France. Et les journalistes en poste étaient assez indifférents à ce truc-là. Et donc, ils avaient tendance, comme il y avait beaucoup de plus en plus d'émissions, à assez facilement dire aux jeunes, aux stagiaires, « Tiens, vas-y, fais une critique sur tel programme d'M6, etc. Et » et donc, du coup, moi qui voulais donner mon avis, ça a commencé par ça, la télé-réalité, le divertissement. Ensuite sont venues les séries, ensuite est venu le cinéma, voilà, les choses se sont faites par étapes.
D'accord, mais depuis, par contre, tu voulais vraiment faire du journalisme côté culture, pop culture
J'ai commencé par le sport, bizarrement, parce qu'il y avait une opportunité et du coup je faisais des comptes rendus de matchs de foot.
Ah oui, intéressant.
Oui. Alors, pas sur le PSG, évidemment, parce que voilà, c'est pareil, c'est réservé aux gens qui savent. Mais non, par opportunité, vraiment. Et même encore aujourd'hui, dès que je peux faire un truc sur le sport, là récemment pour l'EL, j'ai fait un papier sur le Super Bowl, et sur le football américain au sens large. Ce que ça convoque, voilà, de l'imaginaire du mal américain. Je trouve que c'est un terrain d'écriture qui est génial, dans lequel tu peux raconter plein de choses, et dans lequel tu t'ennuies jamais non plus. Donc du coup, oui, le sport d'abord, et puis finalement après, par le jeu des places qui se libèrent, des opportunités... J'ai eu mon premier CDD au Parisien parce qu'il y avait eu un congé mat, puis un collègue qui s'était pété une jambe au ski. Voilà, il y a eu...
C'est des concours de circonstances.
Ouais. Ce qui est assez cliché de le dire et c'est pas hyper... c'est pas une ressource très utile du coup pour les auditeurs de dire « Bon, elle a été au bon endroit au bon moment. » Mais de fait, il y a aussi de ça.
Ouais. D'accord. Et tu as fait quoi comme études
J'ai fait du coup un master de journalisme à Assas, dans une école qui s'appelle l'Institut français de presse.
IFP.
Voilà.
Ouais.
Et, et avant ça, j'avais... Enfin, je dis master, ça ne s'appelait pas master à l'époque, mais bon, aujourd'hui, on dit un master. Et avant ça, j'avais fait un DEA média et multimédia, où c'était plus de la réflexion analytique sur nos manières de communiquer, le sens caché des images, etc. Où j'ai fait, comme j'avais raté le concours de l'école de journalisme la première année, j'ai fait ça en attendant de le repasser, de l'avoir. Et voilà.
D'accord.
Donc vraiment, je suis dans les études, j'ai été très, très... je n'ai pas fait le parcours comme on le voit souvent, des journalistes qui font Sciences Po et qui après rentrent dans une rédaction. Moi, j'étais vraiment information, média, déjà très, très calibrée là-dedans.
D'accord. Et alors, ensuite, comment t'es arrivée au L et comment t'as évolué vers en fait du journalisme plus lifestyle?
Je suis arrivée au L d'abord parce que, donc tu le disais, j'étais anciennement blogueuse. En fait, mon blog a disparu parce qu'il y a eu un incendie dans les locaux de mon hébergeur, OVH. Et on a été plusieurs blogueuses mode, notamment,
d'accord,
à avoir toutes nos archives qui ont cramé parce qu'elles étaient sauvegardées au même endroit, en fait.
Ouais.
Il y avait donc tes archives et la sauvegarde de tes archives dans le même local. Et donc, cet incendie, il a concerné vraiment beaucoup de gens qui écrivaient comme ça sur le net, qui ont commencé à la fin des années 2000. Et je faisais partie de cette brouette-là, donc qui n'a pas récupéré ses archives. Et du coup, j'ai témoigné là-dessus. Je fais une sorte de tribune, en fait, pour le L.fr. Et puis, on a bien accroché avec la chef qui était là à ce moment-là. Elle m'a demandé si ça me plairait d'écrire pour le site. Donc là, c'est le moment où tu essaies de ne pas être surexcitée. Je reviens vers toi.
Laisse-moi réfléchir quelques instants.
Donc là, j'étais déjà freelance à ce moment-là. Je faisais surtout des formations d'écriture sous forme d'ateliers et de masterclass. Et donc, quand elle m'a proposé ça, j'ai sauté dessus tout de suite. Et puis, donc, ça a commencé par le web, par des sujets vestimentaires, parce que j'avais déjà écrit deux livres sur les vêtements. Et donc, ça s'est fait de manière progressive, web, puis print. D'abord, dans le print, des sujets plutôt société, et ensuite des vêtements, parce que une des chefs m'a appelée en me disant « Mais pourquoi t'écris pas sur les vêtements ?» Et puis, parce qu'on me l'a jamais proposé.
Oui.
Et voilà, en fait, les choses se sont faites très graduellement, par opportunité, et puis... Je pense que tu... Oui, parce qu'à un moment donné, quelqu'un te fait confiance.
Mm-hmm. Voilà. Et tout ce qui est mode, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressée. C'était,
C'est pareil, c'est venu assez tard, finalement. Quand tu penses aux filles, les Gen Z d'aujourd'hui, qui à 14 ans déjà...
savent déjà ce qu'elles veulent porter.
Exactement.
Même avant.
Mais oui, même avant, peut-être 14 ans, je suis optimiste. Moi, franchement, c'est pas venu avant 20 ans, c'est pas venu avant Paris, en fait, parce que je suis de grande banlieue parisienne, ce qui est très, très, très différent, très, 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 très différent. C'est déjà la France périphérique, donc très différent des mœurs vestimentaires parisiennes. Et donc, je lisais Elle déjà, qui était la Bible familiale. Et donc, on est trois sœurs, donc ma mère était abonnée, donc on se repassait le magazine. Je lisais 20 ans aussi. Mais tout ça était un peu irréel, ça ne me concernait pas moi. Et quand j'ai vu les étudiantes parisiennes, là, d'un coup, tout s'est mis en place. Et donc là, j'avais déjà 18 ans. Donc c'est un peu tard, finalement, tu vois, J'aimais bien faire du shopping déjà, parce que comme je travaillais à côté de mes études, je pouvais m'offrir des pièces, mais je n'avais pas cette idée de style,
oui,
entre beaucoup de guillemets. Vivre là où je vis, et j'y vis toujours, parce qu'en fait, j'ai vécu à Paris quelques années, puis je suis retournée en banlieue, vraiment, de là où je viens, quand j'ai eu, du coup, deux enfants. en fait, il n'y a pas cette idée de, même de tendance. Enfin, tu sors dans la rue, je vais être caricaturale, mais c'est vrai, les femmes sont habillées, elles mettent un pull avec un jean, une doudoune avec un jogging,
ouais,
une robe avec
ouais.
des sandales, un tailleur et des boots. Voilà, il y a un côté un peu linéaire et pas du tout dans une idée de, ouais, de styliste.
Oui, oui, oui,
de,
comme on peut voir ici dans les grandes villes, effectivement.
Qui est vraiment propre à la grande ville, à la métropole, absolument pas Paris tout court. Je pense que tu dois voir à peu près... à quelques nuances près, à Lille, les mêmes uniformes du moment, les mêmes must-have. Tu vas en avoir d'autres à Marseille, Bordeaux, etc.
Ouais, ouais.
Par contre, la banlieue, c'est juste non, en fait. C'est-à-dire que ton environnement ne te challenge pas.
Oui, mais c'est ça,
voilà.
En fait. On va pas te... Parce que je vois, moi, j'ai vécu un petit peu à Paris aussi avant... C'est pas... Oui, je faisais quand même attention à comment j'allais m'habiller pour sortir,
ouais.
Même la journée, hein, même pour aller travailler. Donc, parce qu'on sent des regards un peu, de la part de tout le monde, mais de jugement ou quoi, etc.
Oui, puis c'est un... Ouais. C'est un côté extrêmement... Enfin, ça tracte beaucoup. Moi, j'ai vraiment senti la différence entre... Et encore, je vivais dans le 15e à Paris, ce qui n'est pas le vrai Paris pour les Parisiens. Donc, le look des gens dans la rue ressemble à peu près à ce que tu vas trouver en dehors de Paris. Mais à chaque fois que je viens dans cette ville, je repars avec de l'inspiration pour plusieurs jours. Alors que dans la rue, chez moi, je ne flash jamais sur... j'adore la manière dont elle a associé ses baskets avec sa robe ou... Mais d'où vient son trench? Enfin,
oui,
ça n'arrive pas.
Ouais, ouais.
Ce qui est du coup extrêmement... comment dire ça te donne ni une dynamique, ni des repères. Et comme moi, je viens de là et que je suis retournée là, il faut vraiment que j'aille ailleurs, en fait, trouver le... y compris les réseaux sociaux, ça a été une révolution pour moi en termes d'exposition à l'allure des gens. Parce que je n'y assistais pas, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Et comme j'ai 45 ans, les réseaux sociaux, c'est venu tard dans ma vie.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, quand on a une certaine sensibilité à être curieux ou regarder les choses, mais sans le vouloir. Mais moi, c'est pareil, des fois, dans la rue. Alors, c'est pas forcément les gens, mais oui, je suis assez curieuse des détails, de certaines, façades de maisons ou quoi, et aussi de personnes où tu regardes le détail, effectivement, quand tu es dans un environnement qui ne te stimule pas au quotidien.
Oui.
Ce qui n'est pas forcément moins bien, hein, voilà, mais quand on travaille dans le lifestyle, je pense que oui, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs.
Ouais. Ouais. Alors, ce qui, me met mal à l'aise dans cette histoire de quête du beau, c'est qu'elle... confond ça souvent avec le bon goût. Et le bon goût, il n'y en a qu'un. Et donc, du coup, peut-être que le fait d'être moi-même, de vivre en dehors de Paris, en dehors de ces cercles où on juge de ce qui est bon ou pas bon, et où on peut jouer aussi avec le mauvais goût... Tu vois, tu peux quand t'es une it girl, avoir une tenue avec un petit peu de... un petit côté cagole.
Oui, oui.
Tu vois, si c'est sur toi,
oui.
Parce que t'es... Voilà, t'es
qu'est-ce que tu es, oui.
Tu es une fille qui compte, ça va être chouette. Si c'est la voisine dans un tout autre lieu que la soirée où tu es, ça va être du mauvais goût. Et donc, voilà, il y a ce truc-là qui toujours me met... Qui a vraiment un réflexe de banlieusarde, pour le coup. Parce que... vraiment, je ne suis pas cernée par des lieux qu'on pourrait qualifier de bon goût ou des tenues qu'on pourrait qualifier de bon goût. Et j'y tiens, en fait, à ce truc-là. Parce que ça remet, en fait, tout en perspective. Alors, même si au quotidien, effectivement, je ne suis jamais plus heureuse que quand je suis entourée de gens de bon goût. Voilà, je trouve qu'il y a un truc un peu dangereux là-dedans et dans lequel j'essaie de pas trop aller. Et enfin toute la question du goût en général et de son assimilation au bon goût me travaille toujours, me perturbe.
Et puis c'est assez subjectif, hein. Chacun a son idée de la beauté, du beau. Enfin,
je préfère parler des goûts au pluriel plutôt que du goût ou du bon goût ou du beau.
Oui, oui. Qu'est-ce que le beau chacun a son définition.
Le singulier a un truc qui me perturbe.
D'accord.
Puis je suis sagittaire aussi. Donc, voilà. J'aime l'idée d'expliquer beaucoup de choses par l'astrologie.
Ok, d'accord. Et alors, quand tu, si on revient un peu à ton métier de journalisme, d'écrire des textes, de mettre des mots sur une tendance ou une actualité, comment tu fais ? Comment tu construis ton texte ? Déjà, au départ, comment tu as l'idée ? Est-ce que tu as... entre guillemets, des contraintes de la part de ta rédaction. Tu dois écrire sur tel thème à tel moment. Comment ça se passe en fait ?
Alors, en termes de contraintes, j'ai un quotidien qui est beaucoup plus en roue libre aujourd'hui que ce que j'avais avant au Parisien, où là j'ai vraiment fait façonné mes techniques à moi, parce que j'écrivais dans des délais très très courts et dans des environnements très bruyants et très inconfortables. Par exemple, j'écrivais sur un concert, pendant le concert, assise par terre avec mon ordi, un peu sur le côté, avec les vigiles qui me disent « Non, vous allez plus loin ». Donc, du coup, j'étais embauchée pour ça. Du coup, quand tu commences à travailler comme ça et à développer des astuces un peu instinctives pour être sûre que... Bah, dans le délai imparti, tu vas avoir ton papier et qui va faire la bonne longueur. Toute la petite subtilité, c'est de réussir à retrouver cet état-là quand tu as du temps devant toi, que ton article est plus long et que tu t'organises un petit peu comme tu veux et que c'est calme et que donc ton esprit a toutes les raisons du monde de divaguer. T'es beaucoup moins concentré.
Ouais, ouais.
Je suis pas quelqu'un qui fonctionne à l'urgence, parce que ça me rend pas meilleure en fait d'avoir vraiment l'heure qui tourne et de voir que ça approche. En revanche, je fonctionne vraiment bien à la contrainte, c'est-à-dire la contrainte de concision. Plus un article est court, plus c'est dur, mais en même temps plus ça m'aide. Et j'aime bien écrire des formats longs aussi, mais je me prends beaucoup plus la tête dessus. Et plus c'est cadré dans mon planning, plus je me dis voilà, je commence à tel moment et je finis à tel moment, plus c'est facile pour retrouver cet état de complète concentration que j'avais quand j'étais au milieu de n'importe quoi pour écrire. Et du coup, j'ai concrètement pas besoin de calme ni je sais faire sans. Mais j'ai besoin d'avoir des contraintes très précises, comme un couloir dans lequel je vais m'élancer.
Mmh.
Et donc, du coup, parfois pour le L, on m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux faire telle longueur sur tel thème pour telle date ?» Et puis, parfois, c'est moi qui appelle en disant « J'ai envie d'écrire sur tel thème et je peux vous le rendre à telle date.
Mmh. »
Donc, le quotidien est une alternance de deadline que je choisis, ou de deadlines qui me sont proposées, auxquelles je peux dire non. Pigiste, tu peux toujours dire non. Donc, du coup, oui, c'est une gymnastique devant l'écran pour me remettre en état optimal pour écrire et pour retrouver ces techniques que d'ailleurs j'ai analysées après coup, une fois que j'avais quitté le Parisien. Et c'est comme ça que j'en ai fait une formation d'ailleurs. C'est qu'en analysant, en relisant mes articles, en analysant quelles étaient les techniques que j'utilisais sans savoir que c'était mes techniques, j'ai élaboré comme ça toute une sorte de boîte à outils dans laquelle je pioche maintenant consciemment. Que ce soit écrire de la manière la plus imagée possible pour donner à voir. Ça vient du reportage, vraiment. Le reportage, c'est donner à voir à quelqu'un qui n'est pas là et qui a l'impression d'y être. Et donc là, les sons, les textures, les couleurs, les gestes, tout ça, c'est très important dans l'écriture. Donc, dès que je peux expliquer quelque chose d'abstrait par quelque chose de concret, je le fais. Et pour commencer un article, ça reste peut-être le truc que j'utilise le plus. J'aime bien quand le lecteur démarre l'article en ayant l'impression qu'il arrive au milieu de quelque chose.
Ah oui,
Et qu'il a envie de savoir la suite. Tu vois,
oui.
Tout comme un film démarrerait par une scène d'action, où tu ne sais pas en fait ce qui a précédé. Mais voilà, tu arrives en cours de truc et puis tu sautes dans le wagon et tu as besoin de savoir la suite. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'essaie de mettre en place systématiquement. J'ai du mal à vraiment bâtir un texte si j'ai pas ce démarrage un petit peu à la volée. Et après, les choses se structurent d'elles-mêmes. Et notamment parce que j'utilise rarement des plans.
Oui,
enfin,
c'est
je
ça.
Tra... Enfin, ouais. je... ça, ça fait partie des choses qu'on ne t'apprend pas, d'ailleurs, en école de journalisme, en tout cas dans la mienne. On ne t'apprend pas à faire un plan pour ton article et à le suivre. Et encore aujourd'hui, à part quand je fais un livre, où là, ça rassure vachement l'éditeur et le lecteur, quand ce n'est pas un roman, bien sûr, d'avoir quelque chose de très structuré avec des parties, des sous-parties. Pour les articles, je fais quasiment jamais de plan.
D'accord. Donc, tu y vas
J'y
au
vais,
feeling, quoi.
Ouais, j'y vais à l'idée que ça coule. Il m'arrive parfois d'écrire des bribes de phrases et de ne pas savoir encore où je vais les mettre. Il m'arrive parfois d'avoir un truc que je pensais mettre au milieu et en fait, je me rends compte que c'est la chute. Enfin, voilà, ça se fait de manière un peu impressionniste comme ça.
Et quand tu écris pour le L, enfin quand tu t'écris tes papiers, est-ce que tu écris tout de suite sur ordinateur ou tu écris sur papier et crayon?
Je réécris beaucoup en temps réel. Donc quand j'écris sur un carnet comme je le faisais en reportage, c'était plus des mots-clés.
Ouais.
Et la phrase, c'est vraiment sur l'ordinateur parce que j'ai envie de la corriger et de la peaufiner tout de suite. Si je fais ça sur papier, ça veut dire qu'il y a des ratures partout, que je ne vois plus, enfin, je ne vois plus ma phrase. Donc, l'ordinateur, vraiment très vite. Quitte à ce que, en faisant une machine, comme tout le monde, j'ai une phrase qui me vient et je la dicte sur les notes de mon iPhone. Mais elle va jamais, quasiment jamais être manuscrite.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Je suis de la génération qui a commencé à travailler avant les smartphones, mais très peu avec le...
Oui, avec un papier, un carnet ou quoi que ce soit. Et quand tu écris un livre, tu écris aussi, tu es un peu... Alors, tu disais que tu prépares un plan, c'est structuré, etc. Mais là, c'est pareil, tu t'écris sur ordinateur ou tu vas plus écrire dans les carnets?
Ouais, vraiment.
Ouais.
Après, ça dépend des projets littéraires. Là, mon dernier en date, qui était publié en ligne, qui n'est pas un livre physique, c'était j'ai écrit sur mon poids pendant un an, façon carnet de bord. Et donc là, impossible pour moi de... Comme c'était vraiment du ressenti en temps réel pendant un an, impossible de savoir sur quoi je vais écrire dans 3 mois, ce que je vais ressentir dans 3 mois. Et puis le fait d'écrire aussi et de publier en temps réel modifie ce que tu ressens. Le feedback des gens modifie ce que tu ressens, les questions qu'on te pose, etc. Donc, c'était très évolutif. Donc là, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir, mais vraiment, promettre que non, en fait, tout n'était pas déjà écrit et que je le faisais vraiment un chapitre tous les mois, au fil de l'eau. À côté de ça, quand, par exemple, j'ai écrit les textes d'un beau livre documentaire sur l'imagerie des pompiers. Là, on est allé voir les éditeurs avec donc mon co-auteur photographe Olivier Corsan, avec un plan. On a vendu le plan, la structure du livre, en fait.
D'accord.
On n'a pas vendu juste une idée de « tiens, on va faire un livre de pop culture sur les pompiers ». On est venu en disant « voilà ». C'était hyper découpé. Après, tu as le oui de l'éditeur. Ça a changé de maison d'édition, d'ailleurs. Parce qu'on voulait faire des photos et on s'était adressé à un éditeur qui fait essentiellement des textes à la base. Et ensuite, Du coup, faire la liste de tes témoins, contacter les casernes, contacter les experts, etc. Donc là, j'ai vraiment travaillé à l'inverse de ce que je fais le plus fréquemment.
D'accord. Ok.
Mais c'était la matière était trop énorme en fait pour que là ça puisse être intuitif.
Et si on revient un peu à ton métier de journaliste, juste pour se rendre compte, hein, par exemple, tous les mois, tu dois faire combien de papiers? Enfin, comment ça se passe?
Alors, ce qui est particulier du coup avec mon activité aujourd'hui, c'est que quand tu es salarié dans une rédaction, peu importe le nombre d'articles que tu fais, et puis tu peux prendre tes vacances, tu as tes congés payés, et puis tu as généralement, si ton service est bien organisé, tu as ton binôme qui prend le relais quand tu n'es pas là. Quand tu es journaliste pigiste, tu es payé suivant une grille, donc tu ne peux pas trop négocier tes tarifs. Et tu es payé au nombre de papiers qui, en ce qui me concerne, sont publiés.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire, enfin, quand ils te sont commandés, ils sont payés aussi, mais t'es payé une fois qu'ils sont publiés.
Ouais.
Donc, du coup, ça implique pas mal d'anticipation pour assurer ton minimum vital. Enfin, je crois que j'ai mis du temps avant de tout simplement calculer quelles étaient exactement mes charges mensuelles et quelle était exactement la somme qu'il fallait que j'aie tous les mois, ou à défaut de l'avoir tous les mois, lisser sur plusieurs mois. En me disant bon bah là j'ai que trois articles qui ont paru dans le mois, ça va être un petit peu tendu, mais le mois d'après j'en aurai 8 ou 10. On n'est vraiment pas des artistes quand on est journaliste, au sens où les artistes ont l'intermittence parce qu'ils ne peuvent pas travailler 5 jours par semaine toute l'année, c'est pas possible. Donc ils ont cette sorte de système qui leur permet, une fois qu'ils ont fait leurs heures, de compenser entre deux projets. Et journaliste pigiste, rien ne t'empêche de travailler 5 jours par semaine, toute l'année.
Ouais.
Donc, c'est à toi, si tu veux, d'aller calculer la bonne quantité d'articles, soit à accepter, soit à proposer, soit les deux, et de t'assurer que... si t'es un peu juste un mois, tu te rattrapes le mois d'après, et de vraiment t'organiser pour choisir les rédactions avec lesquelles tu peux te permettre de travailler.
Ouais.
Et elles sont pas... comment dire ? Il y a des enquêtes vraiment qui prennent énormément de temps, qui seront payées non pas autant que tu passes dessus, mais au nombre de signes que tu publies.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Et les confrères courageux qui bossent comme ça, qui se lancent des semaines sur des semaines de travail pour des enquêtes, à la fin, ils sont payés la même chose que moi qui vais écrire un décryptage un peu sociétaux, vestimentaire, et qui aurait passé 3 jours.
Ouais.
Donc, y a aussi, le statut fait que tu réfléchis aux thèmes sur lesquels tu écris, comment tu écris, avec qui, pour que ça fonctionne.
Ouais. Et aujourd'hui, tu travailles pour le L, tu travailles pour d'autres rédactions également ou...
Alors,
est-ce que tu as le droit de travailler pour d'autres rédactions?
J'ai totalement le droit de travailler pour d'autres rédactions. D'ailleurs, j'ai des consoeurs qui travaillent pour des magazines qui pourraient sembler concurrents comme ça, parce que c'est des féminins aussi. Sauf que dès lors que tu es, par exemple, un mensuel versus un hebdo, en fait, tu n'es pas concurrent. Mais moi j'ai trouvé que avoir un seul employeur en tant que pigiste était vachement plus confortable en matière de disponibilité et de nœud au cerveau que de dire je jongle entre deux rédactions, il va toujours falloir que j'équilibre les choses pour ne léser personne. Et donc ce que je fais moi à côté, c'est pas du journalisme, donc j'ai fait des formations à côté, donc ça c'est micro-entreprise. Quand je crée des contenus réseaux sociaux pour donc Place des Tendances, qui est une filiale du Printemps, et qui me demande est-ce que tu peux nous expliquer le challenge 333, donc un truc de TikTok en 1 minute, là c'est encore micro-entreprise. J'écris un format mais je ne suis pas rémunérée en tant que journaliste, là, je travaille en tant qu'entrepreneur, entre guillemets. Et évidemment, les droits d'auteur, c'est encore un autre statut qui est assez, assez modeste. Hein, donc vraiment, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par an de droits d'auteur qui continuent quand tu publies dans le système classique de livres livre papier. Donc du coup, j'ai cette triple... Kazakh, qui fait que j'ai dû aussi me former un tout petit peu à la gestion de mes affaires, fiscalité aussi, parce que les impôts comprennent rien.
Ouais, c'est ça,
voilà.
C'est... Oui.
Et donc, du coup, ça demande. C'est quelque chose à quoi j'étais absolument pas préparée quand je suis devenue freelance. Bah, tout le côté.
Oui, c'est ça, c'est un autre métier. Voilà. Hein. Enfin, c'est un métier à côté. Oui, c'est ça.
Tu as une sorte de conscience permanente que tu es responsable de tes revenus, de ton agenda, bien sûr. Ce qui est évidemment assez grisant au début, mais tu es aussi responsable de chaque euro qui arrive sur ton compte et de chaque demi-journée que tu prends ou tu n'écris pas. Et il faut aussi intégrer dans la manière dont tu te rémunères les temps que moi j'appellerais peut-être des temps de structuration, c'est-à-dire où tu prépares, tu fais des recherches, tu prépares des articles, tu communiques avec ta rédaction, tu fais de la compta. Tout ça est absolument nécessaire à ton activité. Tu ne peux pas juste écrire. Et c'est du temps que tu as l'impression de ne pas rémunérer.
Ouais.
Donc, moi, ma technique pour moins angoisser là-dessus, c'est que je note tout ce que je fais. Ah, j'ai envoyé un email à machin, j'ai fait la compta de tel, pour tel statut. Comme ça, j'ai l'impression de conscientiser davantage cette part du travail et que c'est pas du temps perdu.
Non, bah non, non, voilà. Non. Oui, puis même mettre le nombre d'heures que tu passes sur ce sujet, enfin, c'est hyper intéressant parce que parfois tu passes autant de temps à régler les histoires, oui, administratives ou de recherche en amont de ton article que de l'écriture. Donc,
c'est exactement ce mindset du freelance, en fait, c'est quantifier beaucoup les choses.
Ouais.
Et tu viens pas forcément avec ces réflexes quand tu as été salarié avant.
Bah, non, vraiment, bah non, parce que tu as un salaire à la fin du mois et voilà. Mais effectivement, est-ce qu'il y a un style d'écriture, une Charlotte's Touch, en fonction de quand tu écris des articles ou quand tu écris un bouquin? Est-ce que ton style d'écriture se différencie ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te définit?
Alors, la Charlotte's Touch. je dirais que dès que je peux être contrastée, ça c'est peut-être un point commun entre toutes les activités, toutes les manières d'écrire. Dès que je peux être contrastée, c'est-à-dire alterner les phrases courtes et les phrases longues, alterner du vocabulaire familier ou très concret et abstrait, je le fais. Donc oui, ça va toucher à la manière de construire les textes. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que des mots très précis et voire soutenus dans une phrase molle. Ça sert à rien, les gens vont pas aller au bout de ta phrase. Et donc, quoi de meilleur pour garder l'attention de ton lecteur que d'être tout le temps un petit peu dans le blanc puis noir, speed puis lent. Voilà. J'aime bien quand les choses s'emballent, puis ralentissent, puis sont graves, puis sont... Sans que ce soit non plus chaotique. Faut trouver quand même son équilibre. Et la matière sur laquelle je travaille, que ce soit la pop culture ou les vêtements, s'y prête heureusement beaucoup parce que c'est à la fois futile et politique, très codifié et puis en même temps très subjectif. Donc, par essence, la matière sur laquelle je bosse est contrastée. Et donc, du coup, je peux me permettre d'être contrastée en étant, je l'espère, la plus intelligible possible. Parce que ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait vraiment donné, que c'était dur d'écrire simplement,
C'est vrai.
Que je n'avais pas à être gênée d'utiliser des mots simples quand ce sont les bons mots. Et que, en fait, ça se joue ailleurs. La vivacité d'un texte, elle ne se joue pas forcément dans le vocabulaire. Elle se joue vraiment dans la... ouais, dans le contre-pied, le rythme. Et donc, j'aime bien quand c'est simple, mais qu'il y a de la vivacité quand même.
C'est ton rythme, en fait. C'est oui. le rythme qui va faire ta
phrase.
Enfin, par exemple, si on lit un article qui est signé Charlotte Moreau, on le reconnaîtra tout de suite à son rythme, en fait.
Alors, j'aimerais. Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Ouais.
D'autant que parfois, parfois tu rends, dans le journalisme, on te commande telle longueur. Donc, tu construis le début de ton article d'une certaine manière. Et puis, la maquette change.
Ouais.
Et puis, on coupe ton attaque.
Mm.
Et donc là, parfois, sur les débuts d'articles, je ne me reconnais pas parce qu'on a coupé la manière dont moi j'entre dans mon sujet et on me reconnaît plus tard dans le fil du texte.
D'accord.
Parce qu'en général, oui, il y a souvent des interventions à l'editing qui se font vraiment au tout début du papier. Et là, pour moi, c'est toujours un drame, mais bon,
oui.
C'est la vie. C'est
oui, parce qu'on revoit tes papiers, en fait. Tu les envoies, on les revoit, on te les renvoie pour les retravailler ou...
Oui, alors ça, c'est un des grands luxes de la presse hebdo par rapport à la presse quotidienne où tu ne revois pas du tout. Une fois que tu as envoyé ton truc, il y a trop d'urgence, de maillons de la chaîne derrière. Et puis, tu n'as plus la main dessus, contrairement au web où tu peux toujours aller modifier quelque chose. En presse hebdo, on te fait voir le texte dans la maquette. Donc, tu vois déjà les interventions qui ont eu lieu. S'il y a des contresens, il t'appartient de les signaler. Si, du coup, tu as envie de préciser une idée parce que, justement, il manque une charnière, une transition, tu peux le faire. Mais tu vois quand même pas le final cut qui peut encore changer après.
Ouais. D'accord.
Donc, en général, quand il y a... un arbitrage et puis qu'il y a tout un premier paragraphe qui saute, en général, ça, tu le vois pas.
Ouais, d'accord. Ouais. Tu le découvres après, quoi.
Ouais.
OK. Et alors, comment tu fais pour t'organiser parmi toutes tes casquettes, là ? Parce que... Non, mais c'est vrai, mais c'est ça aussi le... Comment dire, quand tu es entrepreneur, tu dois faire des papiers, mais à côté, il faut aussi... t'écris des bouquins, t'es aussi assez actif sur Instagram. Comment ça se passe pour t'organiser ? Est-ce que tu as des jours dédiés aux L ou...
Absolument. Ils ne sont pas fixes.
Ouais.
Ils ne sont pas fixes. C'est moi qui les place dans l'agenda, on va dire, à J-15 à peu près. Mais j'ai un employeur prioritaire par jour. Je ne me lance pas le même jour sur...
trois trucs.
Tiens, je dois faire... préparer un contenu Instagram pour Place des Tendances et je vais écrire les premiers mots de mon prochain papier pour elle. Ça marche pas en fait, ma concentration elle y est pas. J'ai besoin d'être focus sur un truc, ce qui du coup fait que ton temps il faut qu'il soit géré intelligemment pour pas que t'aies l'impression de perdre du temps tout simplement, de dire non mais j'en ai pas fait assez aujourd'hui. Donc ça, c'est la première règle. Donc effectivement, le temps de structuration, il faut toujours en tenir compte. Moi, je sépare vraiment nettement dans mon agenda les tâches que je fais toute seule, c'est-à-dire où j'ai besoin que de moi et de moi-même pour aller au bout, et les tâches qui nécessitent d'avoir... soit une interview, soit un retour de quelqu'un d'autre dans la chaîne, et où là, mon emploi du temps ne dépend pas que de moi.
Ouais.
Là-dessus, j'ai appris à prévoir beaucoup de marge, à organiser mon planning du mois, puisqu'à la fin du mois, je vais avoir telle somme, organiser mon planning du mois en me disant, là, si la personne dont j'ai besoin n'est pas dispo, j'en dépends, et puis ça va décaler d'autant. Et donc, dans mon agenda, il y a ces deux trucs-là. L'employeur du jour, entre guillemets, ça peut être moi-même. Hein. Ça peut être genre une journée newsletter. Je fais une newsletter sur Substack qui est gratuite, donc qui ne me rapporte rien. Et donc, ces journées-là où tu travailles pour rien, je les cale dans mon agenda au meilleur moment. Il faut pas que ça perturbe le reste du planning. Et le jour où je fais ça, je fais pas, je me rassure pas en bossant
pour autre
pour
chose.
Quelqu'un. Ou alors, ouais. Éventuellement envoyer un ou deux emails,
oui,
ou caler un
ça.
Ou deux trucs, tu vois, mais ça s'arrête là. Et ah oui, autre chose que je fais aussi, c'est que dans la mesure du possible, j'intercale une nuit entre la première version d'un texte et la version que je vais envoyer. C'est pas toujours possible, mais ça aide à se relire,
à dormir dessus.
voilà, à te sortir de l'excitation d'une formule que tu as trouvée géniale, et en fait, tu te relis le lendemain et tu te dis, oh là là, c'est lourd.
Ça va.
Enfin, tu
ouais.
vois, voilà.
Ouais.
Donc ça, si je peux, et même moi, en termes de sérénité, j'ai remarqué que si j'ai un gros truc où il faut vraiment construire un papier avec plein d'interlocuteurs, si je ne me dis pas que j'achève la rédaction le jour même, je suis plus détendue.
Ouais.
Je me dis, c'est bon, il y a toujours demain matin, le matin
oui,
étant...
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Évidemment, comme
ouais,
tous les créatifs diront la même chose, le matin, c'est la clé
ouais, c'est
pour être le meilleur, parce que tu as vraiment toute la journée devant toi, tu as une sérénité. Faut pas te faire bouffer ton énergie par tes enfants au réveil, ce qui est systématiquement le cas. Donc, je mets beaucoup de temps à retrouver mon focus une fois que je me suis occupée de mes filles le matin, parce que j'ai besoin de revenir à moi. Des fois, ça prend du temps.
Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Effectivement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que il y a des moments dans la journée où tu es plus créative, où tu es plus
ouais.
À l'aise pour écrire?
Quand j'étais au Parisien, on bouclait tard le soir, parce que c'était notre particularité, on bouclait plus tard que nos concurrents, donc on en profitait. On assistait aux événements les plus tardifs possibles, et donc je passais ma journée en gros à rigoler avec les collègues, enfin faire réunion, puis on se marre avec les collègues, puis je commence mollement à écrire après la digestion en fin d'après-midi, et pleine bourre jusqu'à minuit. Là, c'est plus du tout possible avec une vie de famille. Donc, je commence à travailler beaucoup plus tôt et je galère pour me mettre face à mon écran le plus tôt possible. Quand je dis tôt, c'est pas avant 9h, hein, mais
oui.
Je fais pas partie de ces gens qui sont capables de travailler avant que leurs enfants se réveillent.
Oui,
je, non.
Entre 5 et
oui.
7h du matin. Ouais.
Je pense qu'il faut soit renoncer totalement à ces soirées et avoir une... Enfin, pour moi, la vie de couple, c'est quand même le soir.
Ouais.
Soit il faut dormir très peu la nuit, et encore aujourd'hui, hein, je croise des gens qui dorment très très peu la nuit et qui donc sont aucun souci à faire les miracle morning. Moi, je ne peux pas.
Oui, et puis chacun son rythme, et c'est vrai que même pour être assez éclairé et pour écrire quelque chose, moi j'ai besoin aussi d'avoir dormi, autrement si j'ai pas fait mes heures, c'est compliqué, quoi.
Ouais. Bien sûr.
Et
tu te, c'est quand bien même tu es capable, tu as cette incertitude en fait.
Ouais.
En te dire est-ce que ça va connecter. C'est vraiment l'écriture, c'est vraiment un canal d'expression où il faut que tu aies confiance en tes neurones et où tu peux pas bosser comme un robot. C'est pas possible, ça vient pas. Même avec toutes les techniques du monde, ça marche pas. Donc, le sommeil et l'impression d'être en forme et d'être dans de bonnes dispositions pour écrire est cruciale. Même si tu te mens un petit peu à toi-même, voilà, il faut que tu aies l'impression que le cerveau est frais et que ça va marcher.
Et tu mets combien de temps pour écrire un papier, en moyenne?
Alors, ça dépend de la longueur. Quand j'étais, par exemple... dans ce contexte que je te décrivais tout à l'heure, sur un concert, et que je devais écrire, on va dire, 2000 signes. On fonctionne en signes, du coup, je suis incapable de dire l'équivalent en mots. Mais si je devais écrire 2000 signes ou 2500 signes sur un concert, je m'y mettais une demi-heure avant de devoir envoyer.
Ah oui,
pour voir le maximum du concert.
D'accord.
Commencer à m'isoler pour écrire tout en ayant le son encore. Voilà, en mettant un petit peu à l'écart. De toute façon, les vigiles ne te laissent pas le choix. Donc ça, je peux. 30 minutes,
je
peux. Après, sur un... sur une double page pour le L où je n'ai que ma propre parole, c'est-à-dire pas de témoin, pas d'expert, où je suis que dans le conseil tendance, ça peut être fait en une après-midi. Quand j'ai...
En comptant tes recherches aussi, enfin...
En ne comptant pas les recherches.
Oui, c'est ça.
Parce qu'effectivement, c'est un magazine qui est très... où les sujets sont vraiment portés par l'image. Parfois, l'image m'aide à affiner ce que je veux écrire. Donc, j'écris par rapport aux images que j'ai trouvées en agence. Et puis, parfois, ça peut être un petit peu dissocié. Mais normalement, dans l'organisation de la rédaction, en tant que journaliste, tu ne t'occupes pas des images. Sauf que, en réalité... donc, je peux dire « occupez-vous des photos ». Il n'y a pas de problème. Je peux le dire. Mais parfois... Parfois, je m'en occupe parce que ça m'aide à écrire.
Oui, donc il y a tout autour pour illustrer, etc. Oui. Donc, ok. Et quand tu écris, quand tu as écrit tes livres, tu avais une autre façon de faire ? Tu écrivais aussi le matin ou c'est plus...
Le tout premier qui a paru en 2014, où c'était vraiment un livre d'humour sur les vêtements, ce qui paraît complètement bizarre comme concept. c'était dans une collection géniale chez J'ai lu, où c'était des petits livres d'humour et où tu avais une page, un thème. Donc le format assez court. Ça, je faisais en fin de journée. Et j'étais persuadée, comme j'enchaînais les deadlines sans problème aux Parisiens, qu'à partir du moment où j'allais me mettre en face de l'écran, ça allait venir, puisque au travail, ça venait. C'est là que j'ai découvert que parfois, ça venait pas. Et donc là, ça a été assez vertigineux de me rendre compte que tout ce que je pensais avoir mis en place et acquis comme compétence, comme réflexe, était en fait fragile. Et d'accepter qu'il y a des jours où ça ne vient pas. Ça, c'est vraiment propre au livre. Ça m'arrive jamais en tant que journaliste. Peut-être parce qu'il y a le côté « j'ai pas le choix » et la deadline est proche et le texte n'est pas trop long. Un livre, c'est quand même... on parle du temps de l'édition, tu vois, c'est pas pour rien, c'est quand même un temps très très long et c'est des formats longs. Et donc, t'as ce côté un peu flottant qui fait que bah, parfois, voilà, ton inspiration te lâche aussi parce que t'as moins de contraintes. Et donc, pour les suivants, je me suis souvent ménagé des retraites d'écriture. Un privilège incroyable de partir quelques jours et d'être vraiment où là je peux passer des journées devant l'ordi en me faisant juste un plateau pour déjeuner, enfermé dans une chambre d'hôtel.
Donc tu pars seule.
Donc je pars seule.
Tu choisis ton hôtel.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est génial. J'ai plus du tout la possibilité de le faire aujourd'hui, puis j'ai pas le projet qui le justifierait. Ça, c'est vraiment les projets d'édition où tu sais que ça va être difficile de caser des jours de travail dans ton planning de journaliste et où avoir des séquences un peu longues de concentration ou même de stratégie éditoriale pour réussir à concevoir l'architecture globale de ton livre. Tu ne peux pas le faire des fois en une demi-journée, une journée, ça ne marche pas. Donc là, avoir plusieurs jours d'affilée, c'est vraiment précieux. Et je ne travaillais pas du tout comme ça quand j'ai fait donc 76 kilos, le projet littéraire dont je te parlais sur le poids où j'écrivais un chapitre par mois pendant un an. Là, je réservais 3 jours dans mon agenda par mois, jamais les uns à la suite des autres, pour laisser encore une fois,
une journée, 3 jours dans le mois, n'importe quand.
Ouais. Mais c'est séparé pour laisser le truc retomber, pour laisser d'autres choses venir. Ouais. Et ce rythme, en fait, le côté carnet de bord m'a permis d'avoir ce rythme qui était hyper confortable, vraiment à placer dans l'agenda, à vivre aussi.
Et ça, tu le faisais de chez toi ?
De chez moi.
Ouais.
Et le fait que je publiais donc un chapitre par mois, que j'avais des feedbacks dessus, que les lectrices me faisaient des remarques... qui allait me servir pour le chapitre d'après. Enfin, c'était vraiment une dynamique qui, moi, me convenait hyper bien, alors que l'édition, bah, tu travailles dans le secret quasiment, puisque maintenant, les éditeurs n'aiment pas que tu parles d'un livre avant qu'il soit... Enfin, tu vois, plus d'un mois avant.
Ouais, ouais.
Il faut vraiment l'annoncer au dernier moment. Donc, tu es vraiment dans l'isolement, le secret total. Tu n'as pas d'interaction. Et puis, le livre sort. Et puis, les gens t'en parlent pendant quelques jours. Et puis, après, c'est terminé. Donc, du coup, il y a beaucoup, ouais, beaucoup moins de process dynamique, en fait, autour de l'édition classique, qui reste ultra prestigieuse et désirable. Il n'y a pas de problème.
Ouais, tout à fait.
Hein. Mais c'est vrai que moi, qui aime bien parler de ce que je fais, bah, le fait qu'on me reparle des choses sur les réseaux sociaux à chaque chapitre fait que la conversation était continue.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Et ça, c'était génial.
Et justement, pour les réseaux sociaux, donc tu écris aussi sur tes réseaux. Est-ce que tu as aussi un planning éditorial pour vraiment être sûr de...
Alors, sur les réseaux sociaux, jamais. J'ai toujours fait de manière un peu on-off, parce que je fonctionne beaucoup. J'ai un tempérament assez obsessionnel. Donc, des fois, je vais être à fond pendant 3 jours et puis après, plus rien pendant 15.
D'accord, je vois ce que tu veux.
On sait ce que ça coûte en termes d'exposition de tes contenus. Et donc, très tôt, je me suis dit, en fait, si je... Moi qui ai pourtant un esprit assez méthodologique et qui aime bien structurer, organiser, etc. Instagram, je n'ai jamais... C'est même pas que j'ai jamais pu, c'est que j'ai jamais cru que ça allait changer quoi que ce soit. Ou... Je pense que c'est vraiment bien quand tu as un compte qui est avec une monothématique.
Oui, oui.
Et que là, tu as un principe de rendez-vous avec ton audience. Moi, ça a toujours été tout et n'importe quoi sur le lien. Donc, du coup, c'est tout et n'importe quoi en termes de présence, de stories, de... Tu vois, j'ai même pas la réflexion de me dire il faudrait que je fasse un carrousel, et puis là, un reel, et puis là, des stories.
Ouais.
Je n'ai appris que très récemment, d'ailleurs, que si tu mets un lien dans une story, Instagram te shut down direct parce qu'ils détestent les liens qui sortent d'Instagram. Donc tu vois, avant je pouvais
un lien vers un site.
Oui, voilà.
Tiens, je ne sais pas.
Avant, tu vois, comme
parce que moi je mets des liens parfois.
Alors oui, et alors comment faut-il faire? C'est ChatGPT qui m'a appris ça. Comment faut-il faire? En fait, si tu veux mettre un lien externe, il faut que tu fasses plusieurs stories où tu expliques au fur et à mesure pourquoi tu es là. Et qu'à la dernière story, tu mettes le lien.
D'accord.
Parce que là, du coup, au fil des stories, l'Instagram, le fait que les gens restent sur les stories pour avoir la suite, fait que Instagram va mécaniquement exposer ton contenu à plus de monde. Et c'est pas simplement une question de quantité de stories, mais aussi de stories qui gardent les gens sur Instagram, sans lien.
D'accord.
Donc, le pire truc à faire...
Tu apprends quelque chose.
Voilà. Pire truc à faire quand tu as un lien externe à mettre, que ce soit une newsletter, un article, un truc, c'est de faire une story, un lien. Jamais.
D'accord.
Faut pas.
D'accord.
Sinon, ça va être vu par 5% de ton audience.
D'accord.
Méchant Instagram.
Ça, même ce matin, je lisais, maintenant, c'est vraiment très, 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 très instantané. Donc, il faut que ce soit très rapide à lire, à comprendre ce que tu postes. Enfin.
Mais il faut dire qu'on a détourné depuis le début ce qui était censé être une sorte de Pinterest.
Oui, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Au départ, c'était juste des photos.
Oui.
C'était une photo en plus. Enfin, voilà.
Et puis, ça a attiré tellement de monde qu'on a commencé à écrire. Et fondamentalement, alors la plateforme aime ça parce que qui dit écrire dit lire, qui dit lire dit passer du temps sur Insta. Et donc, ça les sert. Mais ils gardent quand même une appétence pour le contenu visuel, pour le changement de règles permanent. Quand tu faisais un carrousel à une époque, c'était pas bien, maintenant c'est mieux.
Oui, oui, mais c'est...
Les reels, finalement, non. Voilà.
Oui.
C'est,
Et en même temps, garder une certaine cohérence de ton visuel, bah oui, mais si vous changez tout le temps les règles, c'est compliqué, quoi.
D'accord. Là, quand je remonte aux sources de mon Insta, et je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, je vois les filtres. Tu sais, les filtres d'ambiance que je mettais au début. Hein. Pas sur ma tête, mais sur toutes les photos.
Sur des photos, moi aussi, j'ai des photos de voyage. Quand je les vois sur mon ordi, elles sont magnifiques. Et je me dis, mais pourquoi j'ai été mettre ça avec... Vraiment, c'est saturé, c'était pas beau du tout.
Exactement.
Bon,
voilà. Qu'est-ce qui nous prenait?
Qu'est-ce qui nous prenait?
Et en même temps, je n'aime rien tant que... une grille, enfin un feed vraiment d'influenceuses où tout est assorti. Ça me procure un apaisement immédiat. Mais moi, à titre perso, je ne peux pas le faire. De même que je ne peux pas publier régulièrement et que je n'anticipe rien.
Ouais. Mais moi, j'aime bien aussi les comptes où il y a... on découvre un peu la personne, son univers, quoi. Tu vois, un peu comme le tien. Parce que quand c'est trop lisse, parfois, je me dis, bon, bah, ok, oui.
Mais, quand c'est hyper cohérent, Insta va pousser le contenu, donc tu vas découvrir cette personne.
Ouais.
Quand c'est un peu tout, Insta ne va pas pousser ton contenu auprès de gens qui peuvent être intéressés par un peu tout, parce que qu'est-ce qui les intéresse? Et donc, tu t'es condamné, entre guillemets, à rester avec une audience qui potentiellement vient d'ailleurs. Moi, tous mes... grande majorité de mes followers Insta viennent de l'époque où j'avais un blog mode et où donc on venait pour les vêtements. Et ensuite, ces gens-là se sont déportés comme moi sur Instagram et j'ai commencé à parler d'autres choses et ils sont restés. Mais tu peux pas me découvrir en disant « Tiens, ce serait cool que je tombe sur le compte de quelqu'un qui écrit sur la pop culture et les vêtements. » Et qui... Non mais voilà, c'est impossible de me trouver si tu me connais pas. Et c'est, en même temps, je conçois que comme tout ça est purement mécanique, il y a forcément des règles qui s'appliquent. Donc, connu de ceux qui connaissent.
Et est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels t'aimerais écrire, t'as pas encore écrit ?
Alors, je suis souvent rattrapée par ces trucs-là après coup, figure-toi. Parce que, par exemple, donc j'ai écrit sur le travail, le vêtement de travail, les contraintes du vêtement professionnel pour le L.fr, où je faisais une série d'entretiens, un métier emblématique et une femme qui raconte comment elle s'habille pour exercer ce métier.
Hyper intéressant. Ouais.
Et ça, je trouvais ça génial, puisque tu as toujours dans le travail l'idée de performance, d'incarner ta fonction, d'être crédible, etc. Et tu n'es pas du tout... performante de la même manière en fonction de ton boulot. Par exemple, une nana qui bosse comme expert comptable, on va avoir une certaine idée de ce à quoi elle doit ressembler pour être crédible. Et une nana qui bosse comme RP ou DIRCOM, à l'inverse, si elle fait trop austère, on n'aura pas du tout envie de lui confier ses relations publiques ou sa communication. Donc ça a été un truc, je me suis rendue après coup, que écrire sur la garde-robe professionnelle, c'était génial.
Mais c'est vrai, et en plus, parce que ton métier ne te définit pas forcément ce que tu es. Enfin, tu peux être comptable et adorer la mode.
Oui.
Enfin, c'est vrai. Enfin, et oui, c'est assez intéressant parce que parfois, on se met dans un moule pour coller à nos collègues ou aux gens.
Entreprise, les codes... Enfin, la culture vestimentaire de ta boîte, de ton secteur, sont hyper puissants.
Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Le secteur d'activité aussi.
Exactement. Ouais. Généralement, on attend de toi que tu les comprennes un peu intuitivement. Il n'y a personne qui te brief. Et maintenant, dans les boîtes où il y a une majorité de femmes, ça commence à bouger légèrement. Il y a aussi ce phénomène que de plus en plus de grands groupes propulsent des femmes à des postes d'encadrement très exposés parce qu'ils veulent paraître modernes.
Oui.
Ce qui fait évidemment tout un tas de tragédies et de jalousies à l'intérieur. Et donc ces femmes-là qui sont censées incarner la modernité d'une boîte ne peuvent pas s'habiller comme un mec simplement parce que c'est pas moderne.
Non.
Et donc, il y a tout un tas de contraintes comme ça qui viennent s'agréger. Et sur les dernières thématiques, pour donner le plus récent en termes de thématiques sur lesquelles écrire, donc finalement, je me rends compte, après avoir fait plusieurs papiers et comme ça commence à former une sorte d'ensemble cohérent, que les masculinités, comme on dit aujourd'hui au pluriel, sont un sujet sur lequel j'aime beaucoup écrire parce que, là encore une fois, mon âge est important. J'ai vraiment eu... je suis née en 1980, donc j'ai grandi avec un certain nombre de réflexes normalisés qui sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et cette remise en question, y compris personnelle, de qu'est-ce que je trouvais normal hier, qu'est-ce que je trouve plus normal aujourd'hui, pourquoi j'étais attirée par ça hier, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça me fait horreur, qu'est-ce qui demeure malgré tout. Tout ça est hyper intéressant quand t'as mon âge et que t'es pas dans cette jeune génération de on va dire 25, 30, 35 ans où les normes sont pas du tout les mêmes, les questionnements sont pas du tout les mêmes. Il y a plus de conviction, il y a plus de... comment dire de... T'es moins tiraillé par des émotions contraires concernant la jante masculine,
ouais, c'est vrai.
Contrairement aux filles de ma génération. Tu vois, il y a des nanas qui, aujourd'hui, jeunes, n'ont aucun souci à ne lire que des livres écrits par des femmes, parce qu'il y a tellement
de vécu
et de récits féminins à rattraper. On n'aura pas assez d'une vie entière pour écouter ces vécus. Et donc, moi, j'aime travailler sur... les vécus féminins en tant que journaliste, mais en tant que lectrice, je continue d'aimer lire des récits masculins. En sachant qu'aujourd'hui, je ne les considère plus universels, ce qui était le cas avant, je les considère masculins. Et se voir soi-même bouger dans ses normes, ses références et tout, c'est passionnant. Donc, ouais, c'est un terrain sur lequel on ne peut pas vraiment se spécialiser, mais... quand par le biais d'un acteur, par le biais d'un sport, je peux toucher à ça, j'adore.
Ouais.
Moi, je travaille pour un magazine féminin, ce que je m'étais jurée de ne pas faire. Voilà. En tant que. je ne sais même pas si je suis Gen X ou. Enfin, bref, peu importe. Donc, je m'étais jurée de ne pas écrire en presse féminine parce que j'en suis lectrice et friande, mais j'étais persuadée de ne pas pouvoir la faire. Aujourd'hui, j'y suis. Je trouve ça... ça m'horripile quand on me dit qu'on écrit que pour parler des femmes en s'adressant aux femmes. Les mecs, vous avez tout le reste de la presse.
Oui, c'est clair.
Enfin, voilà,
oui.
Tous les autres magazines sont par défaut des magazines masculins. Donc, laissez-nous, s'il vous plaît, cette safe place juste pour parler de nous, de nos vécus, de ce qui est parfois juste pas pensé au niveau des femmes et qui ne peut être parfois compris que par nous, même si quelques lecteurs masculins, il y en a toujours eu. Mais après, en termes de lecture personnelle, que moi je digère ensuite et qui rejaillissent sous une autre forme en termes professionnels, je continue à être extrêmement curieuse de cette altérité masculine qui fait, je trouve, qui est centrale aujourd'hui dans notre manière de vivre ensemble et sur laquelle je continue de m'énerver ou d'être... attirée ou enfin voilà, ça me stimule.
donc
du coup écrire je voudrais surtout pas être spécialiste masculinité ça me ce serait trop pour moi puis j'aurais certainement l'impression de vite radoter mais je trouve que dans le panel des choses sur lesquelles je peux écrire au sein d'un magazine féminin notamment ça m'intéresse beaucoup. Et je sais que je suis au bon endroit pour le faire parce qu'on est une rédaction dans laquelle il y a beaucoup de générations qui sont mêlées et trouver les sujets qui nous mettent toutes d'accord, c'est pas facile.
Oui. Non, c'est, oui, mais c'est compliqué.
Et du coup, c'est chouette parce que mine de rien, on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas voilà, il n'y a pas beaucoup de consignes éditoriales qui sont bloquantes. Faut juste pas être offensante, mais enfin bon, ça tout le monde le fait maintenant. Enfin, tu veilles juste à ne pas être discriminatoire dans tes propos, tout comme tu le fais sur Instagram.
Ouais, qu'on a tout à fait.
Tous ces réflexes-là maintenant.
Et tu te formes encore aujourd'hui ou dans technique d'écriture ou des choses comme ça ou pas du tout?
Moi, j'ai l'impression de me former dès que je lis un livre.
Ouais.
J'ai tendance d'ailleurs à ne jamais m'infliger. Une lecture en me disant oh là là, les 100 premières pages c'est dur mais bon il paraît que ça vaut le coup hein. Moi si ça m'intéresse pas dès le premier paragraphe je lis pas, je ferme le livre donc je l'ai choisi toujours de manière extrêmement soigneuse Et si possible, je lis avec un stabilo. Parce que quand il y a une tournure ou un contre-pied ou un truc de rythme, enfin voilà, quelque chose qui techniquement m'interpelle, tac, je souligne. Ce qui me vaut beaucoup de moqueries de la part de mon homme, parce qu'à chaque fois, il me dit « Mais est-ce que tu relis après ?» Je ne te vois jamais rouvrir, relire. Je dis « Mais sur le moment,
ah oui,
le geste fait que je me suis arrêtée. » Enfin, j'ai pris un temps analytique qui me sort généralement pas trop de ma lecture, parce que je lis toujours avec ce filtre-là. Donc, me forme finalement comme ça. Et sur le côté, oui, gestion de côté tout administratif, gestion business au sens... Enfin, il faudrait que je mette beaucoup de guillemets parce que ce n'est vraiment pas un business, mais en même temps, ça l'est un petit peu. Là-dessus, voilà, mon formateur, c'est ChatGPT, mais ne serait-ce qu'une déclaration d'impôt, quand tu as un triple statut comme le mien, il faut te former pour la faire.
Ah oui, mais c'est clair. C'est hyper compliqué. Après... Puis il ne faut pas se tromper non plus, donc c'est
non, très
compliqué.
Non, mieux pas.
Et là, aujourd'hui, tu as d'autres projets, tu as des idées d'écriture pour un nouveau livre ou...
Là, je suis dans une phase d'essayer de conserver la stabilité que j'avais en 2025, où j'ai fait une très bonne année en termes de ce que je voulais sécuriser comme revenu, de type de collaboration. Donc, comme je travaille vraiment avec par cycle, là, je suis vraiment en train de me dire, ne te lance pas dans un truc nouveau, essaie déjà de conserver voilà, ce que tu as de bien qui fonctionne.
Ouais.
Et donc, si je peux faire une aussi bonne année 2026 économique que 2025, je suis contente. Mine de rien, donc j'ai écrit pendant 12 mois ouais, sur le poids. Donc ça s'est terminé fin août 2025. J'ai adoré le faire et je suis incapable d'enchaîner sur un autre truc. Enfin, il me faut plusieurs années en général entre les projets avant de les enchaîner. Et donc, si projet il devait y avoir, ce serait de retravailler ce texte-là, 76 kilos, autrement, pour essayer de le faire publier dans un contexte qui est assez compliqué. Moi, je suis personne. Donc, soit tu es romancière et tu peux être personne parce que tu écris de la fiction, soit si tu écris sur toi, il faut être un peu quelqu'un.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis.
Donc,
non, mais c'est...
Ouais. Donc, c'est voilà, pas évident. Donc, si ça devait... si ce texte-là, il devait évoluer, ce serait, je pense, vers... sous une autre forme. Mmh. Et ça, je ne l'ai encore jamais fait. Je n'ai encore jamais pris un texte que je considère comme terminé pour le transformer en autre chose. Donc, voilà.
Ok.
Ouais.
Pour terminer, j'ai quelques petites questions. Enfin, des questions. Ce ne sont pas des petites questions, des questions. Je vais te demander de répondre un peu rapidement.
D'accord.
Quel est ton mot préféré?
Ce serait forcément un juron. Le mot que j'emploie le plus, c'est putain. Donc, pas facile à placer dans un article. J'ai déjà réussi, mais une fois ou deux, pas plus, sinon il est... Donc, c'est hélas le mot que j'utilise le plus, ce qui terrifie mes filles qui m'en font la remarque. Voilà. Quand tu... voilà.
C'est bien.
Maman voilà. Donc, ouais. C'est celui qui me vient à l'esprit. Enfin, c'est vraiment terrible pour quelqu'un dans l'écriture et le métier, mais ouais, sincèrement, ce serait celui-là.
Le texte ou l'article dont tu es le plus fière?
Le texte ou l'article dont je suis la plus fière, je dirais que c'est 76 kilos, donc qui est un projet littéraire donc similaire à un livre que j'ai publié chapitre par chapitre pendant un an sur mon poids. C'est vraiment le texte le plus personnel et le plus abouti que j'ai fait.
Un lieu qui t'inspire, tu te sens bien pour écrire?
Un lieu qui m'inspire, où je me sens bien pour écrire. J'aime bien être... Alors, là où je me sens bien pour écrire et qui m'inspire, ça va pas être la même chose. Parce que la carte postale de la nana qui écrit avec son ordi ou son carnet un peu partout dans un parc, dans un café, ça me donne très vite mal au dos, mal à la nuque, etc. Donc le lieu où je me sens bien, c'est avec vraiment un grand écran devant moi dans mon bureau. Et un lieu qui m'inspire, ça va être une bibliothèque, mais un peu à l'ancienne, tu vois, avec des boiseries, des éclairages tamisés, des lampes un peu vertes, etc. Des très énormes hauteurs sous plafond. Enfin, c'est toujours inspirant.
La thématique qui te tient à cœur.
La thématique qui me tient à cœur, ça va être vraiment le vêtement, mais dans son aspect quotidien, fonctionnel, plus que dans l'aspect tendance. Mm-hmm. Le vêtement pour accompagner le corps, pour accompagner les activités, pourquoi on pense avoir trouvé ce qui convient pour nous et puis 6 mois plus tard on déteste tout, voilà, tous les états émotionnels aussi dans lesquels ça nous met. Je pense que là-dessus je peux écrire jusqu'à ma tombe sans problème.
Plume, crayon, stylo ou ordinateur?
Ordinateur, pour vraiment produire ordinateur, pour la to-do list et le plaisir de rayer des trucs que j'ai fait, stylo.
D'accord.
Et un certain type de stylo qui glisse bien, c'est des pilotes qui glissent bien sur le papier. Ouais, ils ont une glisse très importante pour les to-do list. Pour...
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un magazine pour lequel tu peux écrire?
Alors, je rêvais d'écrire pour le magazine, enfin le MOOC. Zadig, pour lequel j'ai écrit avant qu'il s'arrête. Il s'est arrêté il y a un peu plus d'un an. Donc ça, c'était vraiment mon rêve. Donc c'est vraiment un magazine de société avec des journalistes et des écrivains qui font de longs textes. Et je suis très contente d'avoir réussi à le faire avant que ça s'arrête.
D'accord. S'il y a un article que tu aurais aimé écrire?
Un article que j'aurais aimé écrire. Y a une rubrique que j'adore, à laquelle j'aurais adoré penser dans le L. C'est le questionnaire à la vie à la mort, qui s'appelle dans le L à la vie à la mode, qui a été élaboré par ma collègue qui est maintenant partie, Ilaria Casati, où donc un créateur de mode nous raconte de manière impressionniste comme ça plein de petites choses sur son rapport aux vêtements. Et c'est un bonheur à lire. J'adorerais moi-même être créateur de mode pour qu'on me demande ça. Et voilà, ça c'est vraiment une forme que j'aurais adoré élaborer et c'est un bonheur. Okay.
Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice ou un journaliste que tu admires, qui t'inspire?
Alors, j'admire Loïc Prigent pour sa manière de travailler à la télévision, vraiment. Sur support audiovisuel, vraiment, je le trouve exceptionnel, de curiosité, de fantaisie, et en même temps de dire des choses politiquement très fortes et très bien vues à chaque analyse. Donc, son prisme à lui sur la mode, voilà, ça, c'est une manière de travailler que vraiment j'admire beaucoup. Et sur le plan de l'écriture, vraiment, de manière très, très clichée, pour beaucoup de gens qui écrivent sur le réel, ça va être Emmanuel Carrère, Annie Arnaud, voilà, des gens qui écrivent comme ça, de cette manière simple et percutante. Et la manière dont Emmanuel Carrère, il manie le jeu aussi, est hyper inspirant pour moi, qui doit souvent m'en servir dans certains articles. Et donc voilà, c'est un peu attendu, mais valeur sûre.
C'est très bien. Et pour finir, ça c'est un peu ma question signature, qu'est-ce qui te fait sourire au sens propre du terme, soit dans la journée ou dans cette journée aujourd'hui ou en règle générale?
Qu'est-ce qui me fait sourire, c'est, c'est quand on me trouve drôle. Si je réussis à faire rire quelqu'un... que ce soit mes enfants ou mon compagnon ou des gens un peu qui peuvent sembler un petit peu rigides au travail ou voilà, si j'arrive à les faire marrer, donc c'est extrêmement narcissique, hein, voilà, parce que sinon je vais te répondre un truc genre le soleil me fait sourire ou mes chiens me font rire, mais ouais, quand je sens que j'ai réussi à connecter par une blague, qui je trouve est une forme de compétence qui est quand même très subjective, là quand j'y arrive, ça me c'est Sagittaire encore.
Ok, et merci Charlotte.
Merci Zaline.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré, donné envie d'en savoir encore plus sur l'univers de Charlotte. Je vous invite à la retrouver sur son compte Instagram sous le nom de Charlotte Moreau. Vous y trouverez tous les liens en bio de sa newsletter, ses articles et même des extraits de son livre. J'adore le style d'écriture de Charlotte, que j'ai choisi d'ailleurs d'appeler la Charlotte Touch. Et oui, pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.